Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alban, développeur web en freelance, mais aussi formateur et également grand aventurier, vous allez comprendre pourquoi. Dans cet épisode, Alban nous raconte comment il est tombé dans le monde du code, comment il a appris un peu par lui-même et surtout ce qu'il a retenu de son passage à l'école Epitech. Il nous donne également sa vision de l'entrepreneuriat et de la liberté en nous parlant notamment des risques et comment il fait lui pour les gérer et au final avoir une certaine liberté d'esprit lorsqu'il mène à bien tous ses projets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant une note plus un avis sur Apple Podcast et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Alban. Salut Alban, merci d'avoir accepté cette invitation pour participer au podcast. Avant qu'on rentre dans des sujets un peu plus ou moins poussés, on va dire, comme ta définition de la liberté, est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter rapidement dans les grandes lignes ?
Bonjour Quentin. Alors moi je suis un développeur et formateur assez récemment sorti d'école, Epitech, si certains connaissent, si tu connais. Voilà, je fais mes études à Paris, ça s'est bien passé, même si le côté école, ça n'a jamais été trop mon truc, et Epitech, on dit souvent que c'est un peu différent, mais c'était pareil, c'était pas forcément toujours trop mon truc. Mais ça fait maintenant depuis 2017 que je suis freelance et souvent je suis partagé entre le monde de développement en tant que développeur web et formateur parce que ça m'a toujours plu de rencontrer des gens à travers ce métier de formateur et de transmettre des connaissances de cette façon-là.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de tes premiers pas dans le monde de la programmation ? Tu nous dis que t'as fait une école centrée effectivement sur l'informatique. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'intéressait avant ? Ou tu t'es dit, bon ok, c'est une école qui a l'air de me plaire, je vais voir ce que ça donne. Et seulement après tu t'es découvert une passion pour l'informatique.
Alors en fait, je me rappelle que déjà au collège, il m'arrivait parfois d'être un élève un petit peu turbulent et que dans ce cadre-là, il nous avait demandé, enfin on avait une heure je crois par semaine, où on nous demandait de réfléchir à ce qu'on voudrait faire plus tard, probablement pour essayer de nous raisonner et qu'on se donne un objectif. Et j'étais tombé sur Epitech à cette époque-là, je m'en rappelle encore, en faisant mes petites recherches. Et c'était resté dans un coin de ma tête tout le lycée. Donc plus tard, un peu par hasard, j'ai rencontré des gens qui étaient dans cette école et c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et puis je me rappelle aussi que le développement, du coup, dès le collège, je me rappelle avoir essayé d'apprendre les bases de HTML et de CSS, de faire ma petite page web. Donc je suis tombé dedans avec le site du zéro à l'époque et j'ai commencé à bidouiller un petit peu de HTML et de CSS pour voir ce que c'était, comment ça marchait. Déjà à l'époque, le côté Matrix, un petit peu du développeur. C'est intriguant, donc je me demandais à quoi ça pouvait bien ressembler.
Ok, super. Et donc du coup, tu es rentré dans cette école-là, tu nous disais que ça t'a pas forcément plu, ou en tout cas ça t'a pas passionné plus que ça. Est-ce que tu peux du coup nous revenir un peu sur cette période de ta scolarité ?
Ouais, alors on peut faire un petit peu les positifs et les négatifs. On va commencer par le positif, c'est plus sympa. Le positif, c'est que voilà, le côté scolaire, vraiment des cours sur papier, encore plus pour du code. Toi, tu es développeur, tu dois comprendre ça aussi. Je me voyais pas aller dans une fac et faire du code papier. Donc ça, c'est sûr que le côté un peu plus moderne où l'éducation nationale là-dessus aurait peut-être un peu de travail à faire, ça me plaisait bien. Le côté indépendant, c'est-à-dire on gère sa façon de travailler, on s'organise par nous-mêmes, ça me plaisait beaucoup. Les projets aussi, au final, cette pédagogie par projet, un petit peu qu'on retrouve souvent dans tout ce genre d'école, et puis même maintenant dans l'informatique, ça c'était vraiment sympa. Mais après, il y a des trucs qui m'ont un peu déçu. Pour les trucs qui m'ont déçu, c'est que ça manquait, c'est un peu la même chose dans les deux cas, c'est que je suis rentré dans cette école, c'est une école payante, assez chère, et il y avait toute une promotion qui était faite. Enfin, moi j'ai rencontré des gens qui étaient déjà en deuxième année pour me décider à rentrer ou pas, en journée porte ouverte et journée pour aller visiter l'école. Et il y avait tout un accompagnement que moi j'ai eu pendant ma première année, et après, du jour au lendemain, ils ont un peu supprimé tout ça. Et bah, ça fait le lien avec le deuxième point, quelque chose que j'ai vraiment pas aimé là-dedans, c'est que je trouvais vraiment qu'on manquait à des fois autant d'accompagnement dans l'apprentissage que par la suite dans l'évaluation, où on nous disait à la fin, voilà, il y avait une machine qui nous corrigeait, ça marche pas, on sait pas pourquoi. Et je trouvais ça un peu vraiment nul en fait, même c'est pas qu'un peu. Et je sais qu'en tant que formateur aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important pour moi de toujours pouvoir dire à mes apprenants ce qu'ils ont fait de bien ou de pas bien, et aussi quand c'est pas bien, bah, de leur dire ce qui était pas bien et comment s'améliorer. Parce que ça, moi, en tant qu'étudiant, c'était horrible, quoi. J'étais en dépression presque à certains moments parce que tu travailles, tu travailles, tu travailles tout le temps et on ne dit rien, ni ce qui va pas, ni pourquoi ça marche pas, ni si c'est bien, ni si c'est pas bien. Et on a plutôt tendance à bien te taper dessus en fait quand c'est pas bien et voilà quoi. T'as que un côté de la pièce, donc je trouvais pas ça très honnête. Ça m'a beaucoup beaucoup fait de mal et beaucoup peiné dans cette école.
Ouais, c'est vrai que c'est cette culture un peu du ok, on se concentre sur l'erreur et on essaye de nous apprendre à ne plus faire d'erreur. Alors, c'est vrai que la correction, c'est quelque chose de génial, avoir un feedback sur ce qu'on fait, de savoir que ce qu'on a fait, ok, c'est bien, mais ça aurait pu être amélioré, là, ça a été mal fait ou pas fait comme on l'attendait. Ça, c'est génial, mais effectivement, comme tu dis, bah, un feedback, enfin. Une note ou en tout cas une appréciation sur son travail sans vraiment avoir d'explication pour savoir où est-ce que ça a mal été fait ou comment ça aurait pu être amélioré, c'est vrai que c'est assez difficile à encaisser et c'est surtout difficile de s'améliorer sans ça, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve ça un peu dur de toujours dire ouais, ça va pas, mais quand il s'agit de bah comment faire, bon là, il y a plus personne. Non, non, c'est assez dur.
Ok, et donc du coup, alors on reviendra un peu après sur plus en détail sur ton quotidien aujourd'hui, mais est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer un peu avec cette expérience-là, supposons qu'on soit dans un monde parfait où tout est possible, parce que voilà, c'est bien beau de se dire que l'éducation nationale a des problèmes, qu'il faut résoudre des choses, mais après on se doute pas forcément de toute la complexité qu'il y a derrière. Imaginons qu'on soit dans un monde idéal, comment est-ce que tu ferais, toi, pour soit apprendre, soit enseigner à quelqu'un, en l'occurrence la programmation, peut-être quelqu'un qui ne s'y connaît pas encore, qui découvre ce milieu-là, comment est-ce que tu t'y prendrais?
Bah alors ça va faire le lien, je pense, avec voilà quoi, le côté formateur. Après, je ne sais pas si on peut parler éducation nationale ou privée. Finalement, pour reprendre un peu tout ce qu'on trouve dans ces écoles, la pédagogie active, la pédagogie par projet, je ne sais pas si ça vaudra le coup de définir ça peut-être un peu plus. C'est vraiment intéressant, en fait, le postulat de départ, de dire, voilà, tu sais pas faire, on va te donner une consigne, un projet à faire. Regarde, documente-toi sur ce langage, sur cette notion technique, sur telle façon de travailler, telle façon de s'organiser. Et vas-y en avant, mon pote. Maintenant, faut chercher. Je peux t'aider à apprendre à chercher, mais il va falloir que toi, tu t'investisses, tu lises, t'essayes de pratiquer, tu te trompes. Et moi, je reste là en disant, j'aime pas ce mot, mais en sachant. En tant que sachant, je reste là à pouvoir t'aider, t'accompagner, te donner un conseil pour pas que tu t'égares, pour pas que tu ailles sur la mauvaise voie. Mais c'est toi vraiment qui va essayer de débroussailler ton propre chemin, de faire tes erreurs, éventuellement revenir en arrière pour mieux repartir. Et vraiment, ça, c'est comme façon d'apprendre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est par cette école, hein, au final, on parlait d'Epitech. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert par cette école. Ça, c'est sûr que le postulat de départ, il est vraiment super et je pense que ça marche. Je pense que ça marche vraiment, même pour faire ça là aujourd'hui dans les formations que je peux donner. Je pense que ça marche vraiment, mais on en revient au fait qu'il faut avoir un feedback derrière. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit présent, un formateur, un coach, un mentor, voilà, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et qui peut-être, c'est peut-être du superflu, c'est peut-être des fois même un peu trop finalement de guider, de donner des conseils, mais en tout cas, qui puisse être là à la fin pour expliquer les erreurs. Peut-être même pas dire comment ça doit être fait, ou faire voir comment ça doit être fait, mais dire, OK, là, tu t'es trompé, peut-être parce que ceci, pouvoir discuter avec la personne, en fait, pour savoir, pour essayer de lui faire voir pourquoi elle s'est trompée, lui faire comprendre pourquoi elle s'est trompée, et sur quoi elle devrait partir, peut-être sur corriger. Et je me rappelle, ça devait être il y a quelques années maintenant, il y a bien 3-4 ans, 4 ans, on avait monté un programme de piscine. Alors pareil, je ne sais pas si ça pourra parler à ceux qui vont écouter ceci ou à toi-même, les piscines dans les écoles d'informatique, un peu comme on voit à 42, Epitech, Epita, toutes ces choses-là, où on est immergé pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, dans plein d'exercices de code sans avoir d'explication. Il faut être là tous les jours, quasiment 7 jours sur 7, 24, 24. Bon, pas tout à fait, mais presque. Et on avait une semaine de piscine avec des amis à moi pour essayer de faire mieux que la piscine d'Epitech. Et voilà, on avait designé des exercices, on avait organisé, on avait une maison, la maison d'un des membres du projet, on avait, je sais plus, c'était 10-15 personnes qui étaient nos apprenants.
OK.
Et surtout, à la fin, bah, on faisait ensemble une correction. D'abord, on réfléchissait tous ensemble à ce qu'on avait fait. Ceux qui avaient réussi, ils essayaient d'expliquer à ceux qui n'avaient pas réussi pourquoi eux, ils ont réussi. Et puis nous, à la fin, on donnait aussi la solution. Mais donc, on avait vraiment essayé de réfléchir à comment motiver les gens à apprendre et surtout pas les laisser dans ce truc de pas d'évaluation, quoi, à la fin. Enfin, de pas savoir se situer à la fin. C'est même pas une évaluation pour t'es bon, t'es mauvais. C'est vraiment comment. Quelle était la bonne réponse, quel est le bon chemin. Et voilà, c'était sympa à faire. Et puis, c'est vraiment moi l'axe en tant que formateur que j'ai pour apprendre aux gens. Je pense qu'en tout cas, pour la programmation, c'est très efficace cette façon d'apprendre. Ce n'est peut-être pas pour tout, mais pour la programmation, c'est vraiment intéressant.
Ok, super. Et j'aimerais revenir un peu sur quelque chose que tu as évoqué juste avant, qui est le fait de savoir chercher. Parce que là, dans ce dont on est en train de parler, j'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait de ne pas savoir quand on a, par exemple, voilà, on est face à un exercice, ou alors face à un projet, ou tout simplement une idée. Par exemple, on a une idée d'application en tête et on veut la développer, et on ne sait pas du tout par où commencer. Ça, c'est la première chose qui, en général, nous bloque quand on veut se lancer dans le monde de la programmation. Et on ne sait pas du tout par où commencer, on ne sait pas quel langage utiliser, on ne sait peut-être même pas enfin, on ne sait pas du tout où chercher. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est une fois, effectivement, qu'on a fait un premier pas, qu'on a développé sa première application, par exemple, son premier site web, son premier algo. Là, effectivement, c'est bien d'avoir des feedbacks et d'avoir un œil sur le travail qu'on a fourni pour qu'ils puissent nous dire, bon, bah là, effectivement, ça marche. Une application de to-do list, par exemple, elle fait le taf. On peut ajouter une tâche, on peut supprimer une tâche, etc. Mais c'est pas parce que ça marche en surface que c'est forcément bien fait derrière. Donc, tu vois, il y a deux choses différentes. Et enfin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est dans le premier cas, qui ne sait pas du tout par où commencer. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on est dans cette situation-là, on est vraiment paralysé et on ne sait même pas quel mot-clé taper sur YouTube, on ne sait même pas, enfin sur YouTube ou Google, on ne sait même pas sur quel site chercher et on est vraiment perdu. Comment t'aiguillerais quelqu'un qui vient vers toi et qui dit, OK, moi j'ai envie de me lancer dans la programmation, ou alors j'ai une idée de logiciel et d'application, j'aimerais bien les développer, mais je sais absolument pas par où commencer.
C'est une question difficile, ça. Enfin, c'est surtout une situation difficile quand on se trouve dans cette situation. Déjà, l'anglais, je pense que quand même dans le monde du développement, que ce soit du web, de la data, de l'appli mobile, de l'intelligence artificielle, ce que tu veux, je pense que c'est quand même compliqué si on n'a pas au moins quelques bases en anglais.
Ouais.
Parce que bah, la plupart des ressources auxquelles on va pouvoir avoir accès, il faut le reconnaître, ça, il y en a en français, mais 80-90%, souvent, ça va être de l'anglais quand même. Voilà, à un moment, tu m'as parlé, quand tu m'as posé ta question, des recherches qu'il faut faire pour pouvoir se lancer ou pouvoir se débloquer quand on ne sait pas trop par où commencer. En partant du postulat qu'on n'y connaît vraiment rien, essayez déjà de lire un petit peu. On a peut-être entendu parler de JavaScript, de Java, de PHP, de Python, de lire un peu ce que c'est que tout ça. Et
Ouais.
de définir son besoin. Si son besoin, c'est de développer un site internet, on n'aura peut-être pas besoin de la même chose que si c'est de développer une application mobile. Parce que si c'est un site internet, peut-être que même avec des choses comme WordPress ou d'autres CMS, finalement, on va pouvoir atteindre son objectif et on ne va pas avoir besoin de développer un site internet de A à Z. Comme un développeur full stack. Ça serait déjà d'analyser ce que c'est son besoin. Ensuite, une fois qu'on a une bonne idée de son besoin, faut chercher comment le mettre en œuvre. Donc, peut-être se renseigner à propos des langages, ne pas hésiter à reformuler les questions qu'on peut poser à Google en faisant des recherches Google. C'est-à-dire que pour une même question, peut-être essayer de la formuler 2 ou 3 fois différemment. De faire les 2 ou 3 recherches et de regarder déjà si on trouve les mêmes résultats. Et au final, avant de commencer à faire quoi que ce soit, beaucoup, beaucoup se documenter pour se faire une idée de ce dont on va avoir besoin d'apprendre ce dont on va avoir besoin d'apprendre et les outils qu'on va utiliser pour mettre en œuvre ce qu'on a envie de réaliser. Et puis, toujours garder cette idée de toujours reformuler 2 ou 3 fois les questions en avançant et donc en cherchant des choses un peu plus techniques sur voilà, comment je vais faire ma première page d'accueil, par exemple, pour mon site WordPress. Est-ce que si je crée moi-même un template, voilà, comment je vais créer une page, définir la page d'accueil, comment je vais créer une page d'un article de blog, comment je vais créer une page de sommaire. Tiens, c'est assez moche quand il n'y a que du HTML, comment je vais mettre du CSS là-dedans? Comment je vais créer un menu. Toujours reformuler 2, 3 fois peut-être les questions pour être sûr de trouver les bonnes réponses. Et je pense qu'avoir quelqu'un à qui on peut s'adresser, qui a un peu plus d'expérience dans le milieu, ça peut être une grosse aide. Même si ce n'est pas quelqu'un qui vient nous aider tous les jours, mais quand on a un doute sur quelque chose ou un conseil à demander, c'est un plus, à mon avis. Un très très gros plus de pouvoir demander conseil à quelqu'un, même juste pour avoir un lien vers une ressource qui peut être intéressante. Voilà, si cette personne peut nous l'envoyer, c'est sûr que c'est que du positif à mon avis.
Ouais, ça répond à ma question. Et j'ajouterais un petit truc qui complète un peu ce que tu as dit, c'est que effectivement, c'est top de faire des premières recherches, et il faut faire ses premières recherches quand on n'a absolument aucune idée de où commencer, de par où commencer. Parce que, voilà, sinon on va peut-être se lancer dans quelque chose qui n'est pas forcément. Enfin, se lancer dans l'apprentissage d'un outil qui n'est pas forcément adapté pour ce qu'on veut faire. Je sais pas, moi, si on se lance effectivement, si on veut créer du mobile. Et qu'on se lance dans du Python ou du HTML, CSS. Alors oui, il y a des outils qui permettent de faire du mobile avec ces outils, enfin, des autres outils qui permettent de faire du mobile avec ces langages-là, mais c'est peut-être pas forcément les plus adaptés pour commencer à faire ce qu'on veut faire. Donc oui, c'est bien de faire des premières recherches, mais je rebondis sur ce que tu as dit quand tu as dit « Ouais, j'ai ma page HTML, c'est bien, mais elle est pas très jolie. Du coup, je vais ajouter du CSS. » Et je pense que ça illustre bien ce que je vais dire là, c'est que il faut pas non plus passer trop de temps à faire des recherches. Ok, on fait ses premières recherches, et dès qu'on a des petits éléments d'information, bon, bah c'est parti, on se lance. Et c'est justement en se lançant dans l'apprentissage du HTML, par exemple, qu'on va découvrir un autre langage, si on peut appeler ça comme ça, qui est par exemple le CSS. Et là, on va se dire, bah tiens, c'est quoi le CSS? Ah bah, ça permet d'enjoliver une page web, très simplement. Et là, du coup, on va de fil en aiguille découvrir des nouveaux outils, découvrir des nouvelles technologies, des nouveaux termes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va vraiment mettre un pied dedans. Donc le plus important, je pense que c'est de faire ses premières recherches et surtout de se lancer pour avoir un aperçu un peu plus clair de ce qu'est le développement, de ce qu'est la programmation, et ensuite pouvoir élargir ses compétences dans plusieurs domaines, ou alors dans un domaine bien précis si on préfère se spécialiser dans un domaine.
Ouais, c'est sûr. Mais bah après, c'est très contextuel en fonction de ce que ton sujet va avoir besoin de faire. Hein. J'ai envie de dire, c'est juste de l'apprentissage, c'est vraiment un projet qu'il veut lancer. Mais peut-être, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Et pour affiner, faut quand même prendre le temps de faire ses recherches pour être sûr bah, de ne pas être à côté de la plaque. Mais faut pas hésiter non plus à se lancer à un moment. Faut pas avoir peur. En tout cas, faut pas avoir peur. La peur, c'est le
Ouais.
pire. Faut pas avoir peur de se lancer, de se tromper et de corriger par la suite ou de rebondir sur l'erreur qu'on a fait pour faire quelque chose de mieux. Faut prendre son temps au début de faire ses recherches, mais une fois qu'on s'est dit, bon, je crois avoir pigé le truc, ok, je me lance, et tant pis si c'est n'importe quoi, ça sera pas perdu, au moins j'aurai essayé, quoi. Faut vraiment pas avoir peur et faut oser y aller à un moment.
Ouais, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on est toujours en apprentissage, et si un développeur aujourd'hui qu'on dit senior est payé plusieurs milliers d'euros par mois dans une boîte, bon bah c'est pas pour rien, c'est parce que justement derrière il y a plusieurs mois, plusieurs années même d'apprentissage constant, et c'est tout à fait normal de au bout de 6 mois avoir toujours l'impression de ne rien connaître, parce que justement plus on apprend de choses, bah, plus on découvre. Le monde de l'informatique en l'occurrence, le monde de la programmation, et plus du coup on a conscience de la vasteté des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, quoi. Ok. Et super. Est-ce que du coup, donc là on a parlé un peu de comment mettre un premier pas dans le monde de la programmation, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu as fait en sortie d'école, donc a priori un peu de freelance, est-ce que c'était... Enfin, comment tu t'es retrouvé dans cette situation-là? Est-ce que tu t'es dit, moi, je veux ma liberté, je veux bosser pour moi? Comment ça s'est fait?
Alors déjà, faut savoir quand même qu'on a, ça doit être un an avec le temps partiel. Ouais, on doit bien avoir, je sais pas moi, avec les stages et le temps partiel, 2 ans, 2 ans et demi hein, d'expérience pro entre stage et temps partiel, en étant pendant nos 5 ans d'études. Moi, en surcroît de ça, ça m'a pris 6 ans pour valider mon diplôme parce que j'ai pris une année sabbatique pour améliorer mon anglais. Et donc j'ai travaillé pendant cette année mon anglais certes, mais aussi dans une autre école en tant que formateur un petit peu. Donc j'avais déjà commencé, hein, parce que j'ai commencé en 2017 mon statut de freelance et je travaillais déjà un petit peu. J'avais une expérience dans une petite start-up. Où il y avait du bien et du moins bien. L'école pour laquelle j'ai travaillé ensuite pendant mon année sabbatique et quelques autres fois, c'était intéressant. C'est là où je suis un peu tombé dans le métier de formateur et que ça a commencé à me plaire parce que je me suis rendu compte du côté sympathique de rencontrer tout un tas de gens qui viennent d'horizons différents. Et de discuter avec eux, que ce soit dans un cadre vraiment professionnel, technique, ou voilà, discuter avec eux à la pause déjeuner entre deux sujets techniques. Et donc tout ça, ça s'est fait encore pendant que j'étais à l'école. Et là, cette année, enfin l'année 2020, l'année 2020, c'était ma dernière année d'études, l'année où il a fallu terminer Epitech et fallait qu'on se trouve un stage, un petit peu de fin d'études. Pour beaucoup, c'est synonyme de stage avec possibilité de recrutement dans une boîte derrière, en continuation du stage. Moi, comment dire ça, par un ami en fait qui travaillait déjà en tant que freelance et en tant que formateur pour Simplon. Tout simplement, il m'en a parlé parce que lui, la personne avec qui il travaillait, partait et peut-être c'était pas l'idéal. Et donc, il m'a tout simplement, voilà, là, c'était par réseau, il m'a tout simplement dit, bah, viens voir, viens découvrir ce que je fais, ça devrait te plaire. En plus, il cherche quelqu'un en ce moment, et donc ça s'est fait comme ça. Et effectivement, il cherchait quelqu'un et moi, je peux dire là, après 7-8 mois, que ça m'a bien plu. Cette expérience. Donc voilà comment ça s'est fait, mon dernier contrat de freelance en tant que formateur, sur l'année 2020, début 2021. Voilà. Je ne
Ok.
sais pas si.
Ouais, non, mais c'est super. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette mission de formateur, ce métier, on peut appeler ça comme ça, hein, de formateur? Est-ce que, justement, c'est quelque chose qui te permet bah, d'avoir une certaine liberté, ou Enfin, comment tu vois ça? Et est-ce que d'abord, justement, tu peux nous parler un peu de ta vision de la liberté, ta définition de la liberté?
Difficile ça comme question. Je pense que déjà, pour être libre, que ce soit en tant que développeur ou en tant qu'être humain de manière plus générale, il faut pouvoir disposer de son temps. Même si c'est au travers d'un travail, que ce soit en freelance, en CDD, en CDI, en ce que tu veux, faut choisir si tu veux travailler dans telle entreprise. Alors, tu as choisi de travailler pour telle entreprise ou voilà, pour tel contrat freelance. Et puis, si tu fais formateur, c'est parce que tu voulais être formateur. Si tu développes un site internet, c'est parce que tu voulais développer un site internet dans ces langages-là. Si tu voulais développer une application mobile, c'est parce que tu voulais développer une application mobile dans ces langages-là. Ou si tu veux faire pousser des carottes dans un champ, c'est parce que tu veux dans un champ, je veux dire, tu peux tout vouloir, mais faut vouloir à la base. Donc, faut être libre de disposer de son temps. Et puis d'ailleurs, ça n'est pas forcément lié au travail. Si tu veux faire pousser des carottes pour vivre en autonomie, et ben, si c'est ton choix, tant mieux, tant mieux. Et du coup, tu as choisi de mettre ton temps à cela. Si tu as choisi d'apprendre quelque chose en faisant une formation, et ben, c'est toi qui as choisi d'apprendre en faisant une formation. Il faut vraiment que toi qui choisis ce que tu veux faire de tes journées, que ça soit pas quelque chose d'imposé. Alors forcément, il y a peut-être des moments où tu vas faire quelque chose, ça te plaît pas forcément, mais faut que ça reste minime. Faut que dans la globalité, ça soit toi qui sois à l'origine de ce que tu fais chaque jour, que ce soit tes décisions. Je pense qu'on pourrait dire aussi que chaque jour, on puisse comprendre sa volonté à soi, sa volonté intérieure, et la mettre en exercice pour être libre et je dirais même pour trouver une certaine forme de bonheur, si c'est pas tout simplement ça quelque part, peut-être le bonheur, c'est de pouvoir chaque jour être capable de réfléchir et de prendre conscience de ce que tu veux, en fait, parce que c'est pas forcément facile à des fois de prendre conscience de ce que tu veux, de définir ce que tu veux, c'est pas si facile que ça finalement. Et ensuite, une fois que tu as réussi à trouver ce que tu voulais, bah comment tu vas faire ce que tu veux en fait. C'est ça derrière qui est important et qui fait un peu le lien avec le fait de pouvoir disposer de son temps. Et il faut peut-être pas avoir trop de faut garder une certaine simplicité dans la vie, je pense, pour faire tout ça. Pas s'imposer trop de choses, parce que non, mais dans le sens surtout financièrement, si tu t'endettes, après, des fois, t'as pas le choix, mais éviter de s'endetter pour des choses bêtes, ou voilà, pour que je sais pas, on va prendre, disons, s'acheter une grosse voiture qui va te coûter peut-être, qui va te coûter beaucoup en essence, en assurance, qui va te prendre la tête en disant, putain, faut pas qu'il y ait quelqu'un qui raye ma voiture. Faut,
Ouais,
pour
effectivement.
réfléchir à ta volonté et l'exercer, faut pas qu'il y ait trop de choses qui te rendent dépendant finalement. Faut pas que tu sois dépendant d'un prêt, de ta voiture, ou faut que ça soit un choix vraiment dans ce cas-là. Faut pas que c'est. Faut bien réfléchir à ce qu'on veut,
Ok, super.
à sa volonté.
Et est-ce que question fatidique, est-ce que toi, aujourd'hui, tu considères que dans la majeure partie du temps, tu es indépendant? C'est une bonne question, ça.
Ah ouais, c'est sûr. Ça fait le lien avec plein de choses finalement, ce podcast dans ma tête. Alors, je ne le suis peut-être pas encore tout à fait. Déjà, rien qu'en ce moment, le coronavirus, le fait qu'on soit un peu enfermé
Ouais,
chez nous, ou en
ça.
tout cas, chacun dans son pays, et les vaches sacrées sont bien gardées. Pas facile pour, quand on se compare à ce qu'on a vécu avant, disposer des mêmes libertés, on va dire. Mais surtout, moi, je sais que j'ai dû m'endetter pour mes études. Donc, parfois, je me suis vraiment forcé à travailler déjà parce que je n'avais pas le droit à l'échec dans le cadre de mes études. Donc, ça a été un moteur puissant. Mais ça a été aussi quelque chose, une souffrance, parfois vraiment de la dépression presque, à se dire, putain, travailler, travailler, travailler sans en voir le bout. Et puis surtout, voilà, ça fait le lien avec le début, le côté pas d'évaluation, est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est mal, c'est nul, j'en sais rien. Et donc ça, maintenant, je suis un peu plus sûr de moi, confiant dans mes compétences, dans là où je veux aller. parce que l'exercice de la volonté, comprendre ce que l'on veut dans la vie, c'est pas inné, quoi. C'est venu ces dernières années, notamment avec une année à l'étranger, que j'ai compris un peu plus tout ça et que j'ai réussi à trouver quelque chose qui me rendait heureux. Et puis la dépendance financière, voilà. Après, j'ai beaucoup travaillé avec ça toujours dans le cœur, quelque part, qui venait assombrir mon quotidien. Et bon, bah là, maintenant, c'est pareil, je commence un peu à me libérer de tout ça. Et bah, ça a été dur, mais bah, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses. Voilà, on parlait de comprendre sa volonté et l'exercice de sa volonté. C'est probablement à travers tout ça que ça m'est venu, à travers d'un voyage à l'étranger, enfin d'un voyage d'une année d'études. Et puis aujourd'hui ça va mieux. Aujourd'hui ça va mieux. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça va beaucoup mieux. Je me suis libéré de plein de choses négatives, mais qui ont été peut-être des erreurs nécessaires.
Ouais, bah oui, tout à fait. Ouais. Et puis comme tu dis, c'est aussi un travail qui est constant. Voilà, à l'instant T, on se découvre peut-être des valeurs, on se rend compte qu'on a peut-être besoin de ça ou de ça pour être heureux. Et peut-être que 5 ou 10 ans après, bah, ça a totalement changé à cause d'un événement ou tout simplement parce qu'on a mûri, parce qu'on a grandi et qu'on s'est rendu compte que, bon, bah effectivement, la liberté que je pensais avoir il y a 3 ou 5 ans, bah c'était pas vraiment une liberté. Et aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi et je me sens plus libre ou je me sens plus heureux grâce à ça ou justement parce que j'ai abandonné telle ou telle chose. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton quotidien aujourd'hui, donc a priori de formateur? Est-ce que tu peux nous décrire peut-être une journée type, s'il y en a une? Parce que voilà, je suppose que c'est vrai que tu as un profil assez, enfin en tout cas un peu entrepreneur, je pense qu'on peut dire ça. Tu fais, t'as plusieurs projets. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton quotidien aujourd'hui?
Mon quotidien, alors là, on arrive vraiment à la fin, moi, de ma période en tant que formateur. Je suis un peu en recherche de ce que je vais faire par la suite, d'opportunités, dirons-nous. Mais une journée type, en ce moment, enfin une semaine type peut-être plutôt, il y a une bonne partie du temps, la moitié, un peu plus, qui est allouée donc à la formation pour laquelle je travaille. Avant, il y avait plus de création d'exercices, réfléchir à voilà comment on allait transmettre un savoir. Alors moi c'était, je ne sais pas si ça peut parler du Node.js et du React et du Vue.js, donc
Ouais.
une formation de full stack développeur JavaScript. Donc voilà, il y avait une bonne partie du temps qui était attribuée à la création d'exercices et aussi à réfléchir un petit peu comment on allait, dans quel ordre on allait les aborder et aussi ce qu'on allait dire à nos apprenants. Pourquoi on faisait ça, pourquoi on voyait ça avant ça, pourquoi après on fait réutiliser ça à nos apprenants dans le projet suivant, comment on va assembler toutes les briques pour qu'ils aient l'impression de progresser, de pas seulement apprendre un savoir par-ci, un savoir par-là, mais de plus ils en apprennent, plus ils les assemblent aussi pour les mettre ensemble. Et là, c'est la fin de la formation. Donc, il y a un peu d'administratif parfois, d'organisation pour les accompagner dans la fin de leur formation, dans le passage de leur certification ou de la réalisation de plein de documents, que ce soit pour la certification ou pour le ministère qui surveille un peu tout ça. Donc ça prend bien la moitié de la semaine et bah voilà, l'autre moitié, un peu moins, je fais beaucoup de réseautage et de LinkedIn en ce moment. J'ai remis à jour mon CV pour 2021, j'ai remis à jour tous mes contacts, je postule à droite à gauche. Puis si aussi pas mal d'apprentissage perso au cours de l'année 2020, c'était plutôt pour approfondir mes connaissances techniques. Et là en ce moment du coup ce qui reste, il y a moins d'apprentissage technique, mais avec le confinement et toutes ces choses-là, je me suis mis à faire quelque chose, enfin j'ai réalisé un rêve, je ne sais pas si je peux dire ça, quelque chose dont j'avais envie, en tout cas c'est apprendre l'espagnol. Et donc bah, tous les jours, une heure et demie d'exercice d'espagnol ou de séries en espagnol, sous-titré espagnol. Voilà, mon temps il se partage comme ça en ce moment.
Ok, et c'est vachement intéressant ce que tu nous racontes parce que tout à l'heure à la question est-ce que tu te sens indépendant, est-ce que tu te sens libre aujourd'hui, t'étais un peu hésitant, mais au final, alors c'est vrai que la liberté c'est pas blanc ou noir, il y a différents degrés, mais on sent dans ce que tu nous dis qu'il y a une certaine liberté dans le sens où tu peux te permettre de te dire, ok, bah demain j'ai envie d'apprendre l'espagnol, et ben je vais consacrer les 3 prochains mois à apprendre l'espagnol. Demain j'ai envie d'aller apprendre le surf, et ben je peux me permettre de, je sais pas moi, soit d'aller au bout de la rue parce que j'habite en bord de mer, ou de déménager et de pouvoir aller apprendre le surf. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant ce que tu nous dis. Et du coup, alors là, tu nous dis que tu es un peu sur la fin d'une mission. On voit que tu es quelqu'un qui adore apprendre, qui aime. Alors, j'ai pas envie de dire d'aller dans tous les sens. Moi, je me permettrais de me décrire comme ça, mais je pense que ça peut être un peu mal vu. Mais en tout cas, tu es quelqu'un qui aime apprendre des nouvelles choses et tester des nouvelles choses. Là, tu nous dis que tu es sur la fin d'un projet. Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as peur éventuellement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde, d'avoir du mal à retrouver un travail, d'avoir du mal à finir les fins de mois? Ou est-ce qu'au contraire, tu es assez serein et tu te dis j'ai acquis un certain nombre de compétences, ou alors j'ai tel ou tel caractère qui va faire que, bon, bah ok, on trouve pas un job en claquant des doigts, ça c'est sûr, mais grâce à mon caractère et grâce à mes compétences, je vais pouvoir m'en sortir.
Déjà, faut quand même s'éviter, quelle que soit sa situation, d'avoir peur en fait. C'est pas un bon moteur la peur. Donc, avoir peur de pas retrouver un contrat ou un emploi ou voilà, tu disais pas finir les fins de mois. Même si à des fois, bah, ça peut se comprendre. Hein, la peur, c'est un sentiment humain. C'est pas un sentiment super super positif en tout cas.
Ouais.
Surtout, se lancer dans un projet, essayer de retrouver un contrat ou un emploi, vaut mieux que ça soit motivé par autre chose que de la peur, justement, plutôt rechercher dans sa volonté ce qu'on a envie de faire. Et en apprenant des choses, voilà, on a appris des choses, peut-être on veut les approfondir ou apprendre de nouvelles choses. Vaut mieux partir en réfléchissant à voilà, ce qu'on a envie d'apprendre, peut-être, vu qu'on parlait d'apprentissage, ou d'approfondir, ou s'améliorer, plutôt que vite, faut que je retrouve un emploi, parce que j'ai peur de ne pas en retrouver.
Ouais.
Après, l'état d'esprit dans lequel je suis, je pense quand même pas mal à mes petits apprenants, qui ne sont pas si petits que ça, vu que la plupart sont plus vieux que moi. Mais je leur souhaite beaucoup de réussite et bah, ce serait aussi bien pour moi que pour eux, parce que quand même, s'ils les ratent tous, ça veut dire que j'ai pas été un très bon formateur. Mais j'espère que bah, déjà tout se passera bien pour eux et puis peut-être qu'on gardera quelques contacts, au moins professionnels, de temps en temps. Voilà, pour se tenir aux nouvelles. Et puis après, l'état d'esprit pour retrouver du travail ou un contrat. Qu'est-ce que c'est que mon état d'esprit? J'aimerais avant tout trouver quelque chose où ça me plairait de me lever tous les matins, que ce soit pour aller au travail sur site ou en télétravail, que ça me plaise de travailler tous les matins et que je me sente investi dans le projet, que j'apprenne des nouvelles choses et que les compétences que j'ai déjà acquises servent au jour le jour. Quoi qu'il y ait un peu des deux, ça serait l'idéal. Je cherche surtout ça. Là, quand je me dis que je recherche un nouveau travail, un mélange de ma compétence est utile à l'entreprise et voilà, je peux la mettre en œuvre au jour le jour et en même temps, et bah, chaque jour permet de découvrir un petit peu quelque chose de nouveau, ça peut être sympa.
Ouais, c'est vrai que tu nous dis effectivement avoir envie de sentir que tu sers à quelque chose dans l'entreprise, alors que ce soit dans une entreprise ou pour un client, mais que ton travail serve à quelque chose. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. On a tous besoin, ce besoin de reconnaissance. Alors forcément, être mis sous le feu des projecteurs, mais sentir au fond de soi-même que ce qu'on a fait durant la journée, ça sert. Soit ça sert à nous-mêmes, soit ça sert à quelqu'un, mais on a besoin de sentir qu'on est utile à quelqu'un ou à quelque chose, quoi. Ok, bah ouais, voilà. Ouais. C'est top, je pense que ça. On a une bonne vision de ton état d'esprit et on a un bon retour d'expérience, on va dire. Dernière question avant de conclure, est-ce que tu aurais une ressource en particulier, quelque chose qui t'a marqué, que ce soit un livre, un podcast, un film, peu importe, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a vraiment marqué et que t'aimerais partager aux auditeurs.
Souvent, moi, je lis pas mal. Donc, je sais que sur l'année 2020, bah, en retour de, voilà, moi, j'avais fait une année d'études à l'étranger en Inde. Donc, en Inde, on voit beaucoup de choses. Et ça m'a fait réfléchir sur plein, voilà, tout ce qui était la volonté. On a pu en parler. On pourrait dire aussi la contemplation pour l'Inde, un mot qui a pris du sens pour moi. Mais du coup, au retour de ça, vu que maintenant c'était l'année 2018-2019, donc il y a eu 2020 entre les deux, j'ai lu certains livres qui m'ont marqué. Walden ou La vie dans les bois, si je dis pas de bêtises, de Henry David Thoreau. On parlait un peu de la simplicité pour être libre justement d'exercer sa volonté et de disposer de son temps. C'est vraiment ce livre, une expérience de vie que lui raconte, où il est parti vivre dans une cabane dans les bois. Alors ça doit dater des années 1850 environ, et il s'est pas coupé du monde parce qu'aller des fois il retournait en ville ou des choses comme ça, mais ça apprend beaucoup de choses sur comment profiter des choses simples au final, se rendre compte qu'on n'a pas besoin de choses si compliquées, parce que parfois dans nos sociétés aujourd'hui, voilà, on veut un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, des nouveaux habits, des nouveaux ceci, des nouveaux cela, faire la fête, plein plein de choses. Et finalement, lui, il revient à l'essentiel et qu'il y trouve une joie immense et raconte. C'est un peu compliqué à lire, mais moi, ça m'a inspiré énormément, bah, pour trouver un petit peu mon bonheur tous les jours, mon pain quotidien de bonheur. Et puis dans un contexte un peu plus volonté et entrepreneuriat, deux autres bouquins, ça pourrait être Réfléchissez, devenez riche. Bah tiens, ça pourrait faire aussi un hommage à mon camarade qui m'a fait rentrer là dans mon quotidien actuel. C'est lui qui me l'a conseillé, ce bouquin. C'est plus du développement personnel. C'est vachement axé business. Il y a un petit fond de spiritualité chrétienne quand même qui transparaît, qui dégouline un peu de temps en temps. Mais il faut savoir lire entre les lignes. C'est vachement intéressant. C'est très orienté business, mais finalement, il explique que tu peux. Ça peut être pour autre chose que le business, mais surtout réfléchir à ton objectif. Comment tu vas y parvenir et analyser ce qui va t'aider à aller au succès et ce qui va au contraire être des causes d'échec. Et ça pousse pour les entrepreneurs, les mecs qui veulent monter, enfin les gens, pas les mecs, les hommes comme les femmes qui veulent monter leur boîte ou voilà, trouver un objectif très professionnel. Ça, c'est un super bouquin. Et ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche pour la volonté. Ça permet, c'est compliqué à lire aussi, c'est de la philo, mais ça permet de réfléchir à ce que c'est que comprendre ce dont on a envie et l'exercice de sa volonté.
Ok, super. Je mettrai les titres de ces trois bouquins dans la description de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas, Alban. Dernière question, si on veut échanger avec toi ou éventuellement profiter de tes talents de formateur, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Oh, ah bah alors, je crois qu'on en parlait au début, ou on en a parlé un moment. J'ai refait mon LinkedIn récemment, donc vous pouvez me retrouver, c'est Alban Meurice ou Alban-Meurice, je crois, pour me trouver sur LinkedIn. En tout cas, le nom de mon profil. Il y a mon CV, il y a une adresse mail où vous pouvez me parler via LinkedIn pour avoir mon numéro de téléphone et puis je sais pas après si moi je peux laisser mon adresse mail ou quelque chose comme ça. Ça...
Non, bah de toute façon, ouais, je mettrai le lien de ton profil LinkedIn dans le podcast, comme ça ce sera plus simple. Ok, super. Bah merci beaucoup à toi, Alban, et on se dit peut-être à une prochaine fois pour un autre épisode, hein, on sait jamais. Il y a apparemment beaucoup de choses qui t'attendent en 2021 et après. Donc merci à toi et à bientôt, j'espère.
À bientôt, salut Quentin.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire, ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.